Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5 à 10, 101.7 dans le pays de Luc. Alors, on est bien content de vous retrouver pour l'épisode 73 de l'émission. Aujourd'hui, dans le studio, on est trois, Fred qui vous parle, Pierrick et Axel.
Bonjour à tous.
Yo.
Alors, on vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter par Internet hein, sur le site de RDIWA, www.rdwa.fr. Là-dessus, vous trouvez aussi le podcast de l'émission dans les émissions thématiques. Hein. Et là, on est en train de remonter, enfin Axel surtout, qui s'y colle, en train de remonter toutes les anciennes émissions depuis la numéro 1. Donc, c'est pas encore complètement fini, mais ça y est, c'est en cours. Il y a vraiment la possibilité très bientôt d'écouter toutes les émissions depuis la première. Donc, ça fait un peu plus de 4 ans d'émissions maintenant, si je ne m'abuse.
73 voilà. Émissions, ouais.
Alors, le sommaire de cette émission, on va commencer un peu comme d'habitude avec le ciel ce soir, les constellations qui s'offrent à nous au moment du coucher du soleil et puis au cours de la nuit. Ensuite, on aura quelques actus du monde de l'astronomie. On poursuivra avec la rubrique spéciale d'Axel qui va donc démarrer un cycle lunaire sur plusieurs émissions. Aujourd'hui, ce sera la première partie. Il nous se posera la question, pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune ?
Ben oui, une question qu'on se pose souvent, enfin en tout cas que des gens me posent de temps en temps. Et Pierrick va nous parler de la Lune aussi.
Et Pierrick va également nous parler de la Lune. Après la pause musicale, ce sera la chronique spatiale. Toi Pierrick, tu nous parleras du programme lunaire soviétique des années 60, un peu en parallèle de ce qui se faisait aux États-Unis avec le programme Apollo.
Ouais, le programme lunaire habité soviétique de l'époque des années 60.
Eh bien, c'est parti. On démarre donc avec le ciel ce soir. Là, en ce moment, comment on peut le prendre, dans quel sens? Eh bien, si vous regardez au sud, là, je me suis fait la réflexion l'autre soir. Au moment du coucher du soleil, on voit encore bien le Sagittaire et même le Scorpion, en fait.
J'ai vu le Sagittaire en revenant de Cré un soir, là. Il est très visible,
Sagittaire, voilà, et Scorpion. Et là, je me suis fait la réflexion, en fait, avec l'équinoxe qui est passé, c'est comme si on avait un peu... il fait nuit de plus en plus tôt, on le voit bien. Et c'est comme si on avait récupéré de la nuit. C'est comme si on avait regagné du ciel un petit peu. Moi, ça me donne cette impression-là. Oui. Que le soir, en fait, comme la nuit tombe plus tôt, on voit des étoiles qu'on ne voyait plus, déjà.
Là, c'est possible.
Par exemple, le Scorpion, il était vraiment limite. Oui. Là, en fait, Scorpion, Sagittaire, on les voit.
Oui, tout à fait.
Donc, plein sud, amusez-vous à retrouver ça. Alors, le Sagittaire, il a une... On dit qu'il a une forme de théière. Bon, une fois qu'on l'a vu, pourquoi pas? C'est pas très poétique, mais ça marche. Effectivement, avec une anse, un petit chapeau triangulaire et puis un bec verseur à droite. Et vous avez aussi le Scorpion. Donc, si vous voyez au sud une étoile bien orangée, presque rouge, qui ne se fait pas très haute au-dessus de l'horizon, il y a toutes les chances qu'il s'agisse d'Antares, l'œil du Scorpion, le cœur du Scorpion. Avec ses pinces et puis en plus cet arrondi. Bon, mais là, la queue du Scorpion n'est pas visible, elle est trop basse sous l'horizon. Vous avez toujours la région circumpolaire avec la Grande Ourse, la Petite Ourse, le Cassiopée qui sont là. De la Grande Ourse, on a encore, au zénith, on a le triangle d'été qui est là. Donc avec la lyre, le cygne et puis l'aigle. Qui sont bien visibles. Et ensuite, donc le dragon, toujours, qui serpente entre la Grande Ourse et la Petite Ourse. Et puis, en étoile bien brillante, là, au moment du coucher du soleil, vous avez Antares à l'horizon sud, vous avez Vega quasiment au zénith, un peu bleuté là dans la lyre, Deneb et Altaïr qui sont bien visibles. Ensuite, quand vous partez vers l'est, là, vous allez tranquillement trouver le carré de Pégase. Alors, je ne crois pas qu'il soit complètement levé au moment du coucher de soleil, mais ça ne saurait tarder. Et donc, vous avez sous le carré de Pégase les poissons, constellation diffuse dont on a déjà parlé, mais qui font un bon ciel pour arriver à la voir, assez étendue. Et puis, juste avant, en fait, en repartant vers le Sagittaire, vous allez avoir le Verseau et le Capricorne. Dans le Verseau, c'est une zone qui nous intéresse, puisqu'en ce moment, on trouve Saturne. Donc Saturne, toujours visible en début de nuit, dès le début de la nuit. On rappelle ces anneaux là qui sont en train de passer dans le plan d'observation, donc qui sont peu écartés en fait, Donc on a, une ellipse très resserrée, et puis qui petit à petit là, vont quasiment disparaître, puisqu'on va passer vraiment dans le plan l'année prochaine.
Oui, parce que les anneaux sont très fins.
Oui.
Et on croit qu'ils sont épais, mais non.
C'est quelques kilomètres d'épaisseur.
Si on les voit par la tranche, en fait, on ne les voit plus presque.
C'est ça. Et si on continue, donc, vous avez aussi, ensuite derrière le carré de Pégase et les poissons, vous allez avoir le bélier, puis surtout le taureau. Le taureau qui va se lever, taureau, puis les gémeaux, qui sont là aussi en deuxième partie de soirée. Et là, on va pouvoir trouver Jupiter et Mars. Qui là aussi sont observables. Jupiter en deuxième partie de nuit, il y a vraiment des belles observations à faire, en plus dans une zone assez esthétique du ciel, hein, avec le lever du taureau, les Pléiades, on a des étoiles assez lumineuses, colorées, et on a Jupiter qui est là au milieu. Quant à Mars, elle est quand même plus petite. Au niveau des observations, c'est intéressant de la repérer, ça fait toujours plaisir de la voir, mais grossir au télescope n'a pas forcément un intérêt majeur en ce moment. Voilà pour le tour du ciel.
Et pour finir avec les planètes, si vous avez un horizon ouest bien dégagé, il y a Vénus aussi au coucher de soleil à 19h30, qui fait encore dans la lueur du jour, enfin du crépuscule. Elle est assez brillante pour être visible. Et puis elle se couche vers 20h et quelques. Ouais. Mais elle est un petit peu visible.
Oui, moi dessus, moi je ne peux pas la voir, l'horizon n'étant pas dégagé à l'ouest. Mais voilà pour les planètes et pour ces constellations. Toujours pareil, hein, si ça vous intéresse, il y a besoin de personne pour apprendre les constellations. Soit vous avez une carte du ciel, soit vous utilisez les applications en fait, d'astronomie sur le téléphone, où en fait, vous pointez le téléphone vers le ciel et il vous dit la constellation dont il s'agit, ce qui vous permet d'avoir un point de départ pour vous repérer ensuite sur la carte du ciel. Parce que c'est vrai que quand on est vraiment tout seul, ce n'est pas toujours facile de démarrer. En fait.
Très bien, merci Fred.
Ok, ben on va continuer avec les actualités. Et Axel, tu voulais nous parler donc de la comète Tsuchinchan.
Oui, la comète Tsuchinchan Atlas, aussi appelée C2023A3, qui veut dire qu'elle a été découverte dans la troisième découverte dans la première quinzaine de 2023. C'est ça, le 2023A3. Et pourquoi elle porte ce nom, avant d'en parler un peu plus, Tsuchinchan, ça veut dire la montagne pourpre en chinois, puisque c'est un télescope de Schmidt de 1 mètre chinois qui l'a découvert. Et en fait, précisément, c'est d'abord un télescope du programme Atlas, qui ne se trouve pas, lui, dans l'Atlas en Nord-Afrique, mais en Afrique du Sud. Un petit télescope de 500, un petit télescope pour un observatoire, hein, un 500 mm. Atlas, c'est l'acronyme de Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System. Ils sont là pour trouver quel astéroïde va nous tomber dessus au dernier moment, en gros. Et donc lui, il a découvert, et pour confirmer, on a utilisé des images prises quelques semaines avant par le télescope d'un mètre de Tsuchinchan, et là-dessus, on la voit aussi, mais c'était pas assez visible pour qu'on se dise « tiens, il y a un truc bizarre là », mais voilà, elle apparaissait déjà. Elle a été découverte plus ou moins loin, enfin ça dépend comment on va en parler, mais elle a été découverte alors qu'elle était près de Saturne. Elle venait de passer l'orbite de Saturne, donc un peu plus d'un milliard de kilomètres. Et c'est assez rare qu'on découvre des comètes aussi loin. Et c'est expliqué par sa taille conséquente, qu'on estime entre 20 et 40 kilomètres de diamètre, son noyau. Voilà, elle est observable alors, avec des gros télescopes depuis début 2023. Mais pour nous, depuis le mois de juillet, elle est passée sous la magnitude 10. Donc là, ça commence à être assez brillant pour être visible avec un télescope, un petit télescope. Elle a une orbite hyperbolique, c'est-à-dire qu'elle vient probablement pas de notre système solaire, et une fois qu'elle sera passée, elle repartira en dehors du système solaire, alors deviendra un objet interstellaire. Elle a passé le moment le plus près du Soleil, on en parlait la dernière fois, à la dernière émission, le 27 septembre. Et au moment où on sera diffusé, elle n'est pas visible, puisque entre le 2 et le 9 octobre, elle est trop près du Soleil, dans le ciel, en apparence. Donc, on ne peut pas la voir. Il faudra attendre le 10 octobre pour la voir, et surtout pour la voir en début de nuit. puisque là j'ai commencé à voir quelques photos dans cette première semaine d'octobre, mais au petit matin, et puis bon, de l'hémisphère sud c'est encore plus simple, mais de l'hémisphère nord au petit matin elle est visible, mais assez peu. À partir du 10 octobre, et surtout du 12 octobre, là où elle passe au plus près de la Terre, c'est là qu'elle va devenir très visible, et peut-être même passer sous la magnitude 0, donc assez brillante. Magnitude 0, c'est Vega, je crois, à peu près. Voilà, que dire de plus? Alors, donc à partir de là, voilà, elle peut passer sous la magnitude 0, et puis elle va ensuite reperdre en brillance à partir du 15 octobre, où elle repasse magnitude 0, et puis de moins en moins brillante, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'elle va être visible, a priori, à l'œil nu, très simplement, aux jumelles, très facilement aussi, évidemment au télescope, mais même qu'au télescope, comme on attend qu'elle soit très étendue, ce ne sera pas forcément le meilleur instrument pour l'observer. On conseille plutôt des focales de 50 mm maximum, choses comme ça. Donc pour un télescope, c'est un peu trop étendu. Voilà, en termes de position...
Elle va être basse, non? C'est ça le truc?
Alors pour l'instant, voilà, au moment où elle va commencer à être visible le soir, de même façon que Vénus, il faut avoir un horizon ouest bien dégagé, puisqu'elle est sous Arcturus du 10 au 13 octobre. Et puis elle monte comme ça progressivement vers le serpent. Elle traverse le serpent entre le 16 et le 18 octobre. Et puis elle continue à monter dans le serpentaire jusqu'au 21 octobre. Elle va être visible à peu près un mois avant de passer à l'œil nu. On estime qu'elle passera au-delà de la magnitude 6, qui est la limite en visuel à l'œil nu, d'ici le 15 novembre.
Donc on a quand même de vraies chances de l'observer. Après 15 novembre, le serpentaire, tout ça, ça va être bien bas quand même.
Oui, c'est vraiment de l'horizon.
On va être limite.
Et notre cher, enfin notre cher, je dis ça parce que je l'ai côtoyé un petit peu à Val-d'Orme, Nicolas Beaver, cométologue de l'Observatoire de Meudon, il précise qu'elle a une position particulière qui fait qu'elle va être éclairée par l'arrière, comme l'avait été la comète McNaught de 2007, qui n'est pas très connue ici parce qu'elle était visible que dans l'hémisphère sud, mais elle est quand même considérée comme la comète la plus visible du 21e siècle. Voilà, donc avec des magnitudes moins 4, moins 5, donc quand même très brillante. Et ça, c'était dû au fait qu'elle soit éclairée par l'arrière. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette comète. Elle est passée donc au moment critique du passage au plus près du Soleil, elle n'a pas été disloquée, donc c'est déjà une bonne chose, parce que ça, c'est toujours la chose qu'on ne sait pas du tout prédire. Est-ce qu'elle va survivre à son passage au plus près du Soleil? Eh bien oui, elle a survécu. Donc maintenant, tout laisse à croire qu'elle va être très visible.
Elle était assez massive, donc j'imagine qu'elle va se faire disloquer comme ça.
Elle est passée, je crois, à 50 millions de kilomètres du Soleil. Donc à 0,03.
Un tiers d'unité astronomique.
Ouais. Donc assez près quand même. Voilà, donc à vos jumelles, à vos yeux, visez l'horizon ouest quand vous pouvez à partir de la semaine prochaine. Ouais.
Ben on va guetter ça, et puis on en reparlera dans la prochaine émission aussi, puisque de toute façon, c'est à suivre sur un mois. Donc on aura l'occasion d'en reparler, on vous dira si on arrive à l'observer. Et puis si vous arrivez à l'observer, que vous avez envie de partager ça avec nous, on vous rappelle l'adresse mail de l'émission, astrordwa@protonmail.com. Et si vous avez envie de nous communiquer vos observations, vous êtes les bienvenus. On va poursuivre avec donc la rubrique spéciale d'Axel. Et donc, tu as ton cycle lunaire que tu vas démarrer aujourd'hui et nous répondre à cette question. Pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune?
Oui, pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune? D'abord, je tiens à m'excuser un peu pour ma voix, puisque je suis un peu malade. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous nous entendez grâce à des ondes électromagnétiques que nous sommes des robots. Non, non. Nous sommes bien
des IA.
Donc, sujet à nos chères bactéries. Bon, je vais essayer de ne pas trop renifler et d'éternuer pour vous parler de ça. Pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune? Donc, comme tu disais, je vous ai préparé pour les quelques prochaines émissions, peut-être 3-4 émissions, des chroniques qui auront tout ce sujet en commun, la Lune. Et pour la première, je me suis attaqué à cette question qui peut sonner complotiste, mais que l'on peut aussi se poser très sérieusement. puisque après tout c'est vrai, on n'est pas retourné depuis 1972. Alors déjà il faut s'entendre, hein, quand on dit ça, le « on » ne représente en fait uniquement que des Américains sous l'égide de la NASA. Et qu'on dit on est allé sur la Lune.
C'est, bon, des, c'est des humains surtout.
Oui, c'est des humains en fait.
Ah oui, oui, je parle de.
Aucun humain n'a reposé le pied sur la Lune. Par contre, il y a eu plein de sondes qui sont retournées sur la Lune, compris très récemment, puisqu'on est quand même en train de préparer le Gateway, on est en train de préparer quand même tout un tas de choses, et on est en train de préparer le retour. Enfin, bon, je pense que tu en parleras, mais.
Oui, j'en parle un peu à la fin.
Le retour sur la Lune, il est prochain.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs catégories. D'abord, les raisons, bien sûr, la première qui vient à l'esprit, économique. Puisqu'il faut rappeler que pendant 10 ans, des années 60 à 70, à peu près, ça a mobilisé 420 000 personnes aux États-Unis. C'est quand même pas rien, 500 000 de personnes quasiment, qu'il a fallu payer, évidemment. Et ça a représenté un coût équivalent aujourd'hui, rapporté avec l'inflation, de 150 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien, et qui représentait à l'époque pas loin de 5% du PIB états-unien.
Ouais,
alors qu'aujourd'hui, le budget de la NASA, et là, je parle juste du budget, c'était pas le budget de la NASA, hein, 5% du PIB, c'était le budget pour le programme Apollo.
Entier, tu veux dire, sur les 10 ans, quoi.
Non, juste de Apollo.
Donc, sur une année, ouais.
Sur une année,
5% du PIB annuel, c'était pour Apollo.
Ouais, c'est énorme.
Et aujourd'hui, la NASA entière, pas que les missions habitées, mais la NASA entière, ne touche plus que 0,4% du PIB américain. En gros, à l'époque, un peu avant ça, je ne sais plus combien ils touchaient, mais d'un coup, on a dit, il y a la mission Apollo, programme Apollo. Ils ont multiplié par 30 le budget alloué à la NASA. Et aujourd'hui, c'est divisé par 10.
Souvent, les budgets des armées des pays, c'est entre 2%, 5% du PIB des pays.
Ah oui, aux États-Unis, c'est encore plus, je crois.
Peut-être aux États-Unis, c'est plus. Mais...
En termes matériels aussi, plus de la moitié, 60% des puces électroniques produites et construites aux États-Unis pendant 6 ans ont été allouées au programme Apollo. Aujourd'hui, on s'en sert pour faire des iPhones et des trottinettes électriques.
Non, mais c'est sûr qu'ils ont fait un effort colossal.
Il y avait
un réel
effort de guerre.
Ouais, ça revient à ça. Ça revient à ce qu'on appelle un effort de guerre. Ouais.
Et oui, parce qu'on parle, on est au cœur de la guerre froide, hein, depuis la crise des missiles de Cuba. Enfin, c'était vraiment ce contexte de guerre froide qu'on appelle comme ça, parce qu'il n'y avait pas de conflit armé, mais il y avait un conflit technologique. Et donc...
Et idéologique.
Le budget, ouais. Artemis, aujourd'hui, la mission, le programme habité lunaire de la NASA, pour l'instant, c'est budgétisé à 100 milliards de dollars, ce qui est donc moins que ce qu'ils avaient donné pour Apollo, mais qui représente quand même le PIB de 2/3 des pays du monde, 100 milliards de dollars.
Ouais.
Donc c'est quand même pas rien ce qu'ils veulent mettre aujourd'hui. Et alors, pour rester dans les considérations économiques, tout après le programme Apollo, tout le budget dédié au vol habité est parti pendant presque 40 ans, d'abord dans la navette spatiale, et qui a pompé beaucoup d'énergie et d'argent.
Financier,
Alors, bon, on sait comment ça a fini, est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Il y en a qui voient ça comme un échec, parce que ça a été arrêté et que ça a tué des gens. D'autres qui voient ça comme une belle aventure. Bon, à voir. En tout cas, tout le budget du programme habité est passé dans la navette spatiale. Et puis ensuite dans l'ISS aussi, qui est quand même un projet extrêmement ambitieux, un des plus grands projets spatiaux de l'humanité, l'ISS. Donc c'est plus près de nous, mais c'est pas plus simple techniquement que d'envoyer quelqu'un sur la Lune, de maintenir une station en orbite depuis 30 ans, d'envoyer des gens régulièrement et tout ça.
Après c'est plusieurs pays, c'est pas que les États-Unis.
Bien sûr. Passons aux problèmes, enfin aux considérations idéologiques. Comme je viens de le mentionner, je vais aller un peu plus vite que la musique, mais c'était le contexte de guerre froide qui n'a plus été le cas pendant un moment, mais qui redevient un peu le cas aujourd'hui parce que les Chinois veulent y aller, parce qu'à l'époque c'était, et Pierre il va nous en parler, les Soviétiques contre le bloc de l'Ouest et notamment les États-Unis, qui le premier va arriver sur la Lune. Ils ont gagné, bon, tout le monde a dit la victoire est faite. Mmh. Et maintenant, ça revient parce qu'il y a des nouveaux concurrents, comme la Chine notamment. Et d'ailleurs, tu en as déjà parlé, je crois, dans une émission du programme lunaire chinois.
Mmh.
Il y avait aussi, en fait, C'était Kennedy qui a lancé cette idée d'aller sur la Lune avec son fameux discours. On a choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'était simple, mais parce qu'on peut le faire. Et en fait, au moment où il le disait, personne ne pensait vraiment qu'on pouvait le faire. Il a un peu fait ce pari, et du coup, derrière, tout le monde s'est dit « Bon, bah, maintenant qu'il a dit ça, il va falloir le faire. » Il y avait encore beaucoup de choses à inventer à ce moment-là, au moment où il l'a dit, en 62, je crois que c'était.
Oui, c'était grosse pression d'un coup.
Et ouais. Oui. Et puis après, ben, il s'est fait assassiner. Et là, personne n'a eu le courage de dire en fait, on ne va pas le faire. On va un peu honorer sa mémoire et on va le faire. Mais il n'y avait pas non plus la majorité des citoyens américains qui étaient emballés par le projet.
Bah, tout cet argent dedans,
hein, bah ouais, c'est ça.
Discutable. Hein.
Donc c'est pour ça que dès qu'ils l'ont fait, on est passé à autre chose. On dit c'est bon, on l'a fait, maintenant on réalloue le budget ailleurs.
Ouais, il y a eu la guerre du Vietnam.
Exactement. Ah. Par exemple, on est passé là-dessus, sur la guerre du Vietnam et d'autres choses ensuite.
Qui a coûté cher et qui a pris le reste du budget.
Exactement. C'est un des points. Ouais. Et puis les programmes Apollo, les missions, ils n'avaient qu'un intérêt scientifique que très relatif finalement. Le vrai but, c'était surtout de montrer la supériorité d'un système politique, le capitalisme versus communisme. Mais en termes scientifiques, les humains ne vont pas faire énormément plus que les robots qu'on peut envoyer.
Non, mais c'était surtout une aventure technologique plus que. Alors, c'est ce que la technologie fait partie de la science, ouais, un petit peu. Mais c'est vrai que c'était surtout ça, un défi technique qui a été remporté. En termes de sciences dures, il n'y a rien du tout. C'est vraiment ce qui a progressé, c'est l'ingénierie spatiale, la capacité de dire oui, ça y est, on y arrive, on peut envoyer des gens, on peut faire ci, on peut occuper l'espace. Et c'est clair que le développement qu'on a même jusqu'à maintenant, on parle maintenant de Starlink, on parle de tous ces trucs-là, de toute cette occupation phénoménale des orbites basses, actuellement, c'est la suite en fait de ces programmes-là. Enfin, c'est quand même eux aussi qui ont tout simplement inventé le spatial. Il n'y avait rien avant, quoi.
C'est exactement ça. J'allais y venir. Des fois, on me dit que c'est bizarre qu'ils aient oublié ces technologies et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est des technologies qu'on utilise au quotidien, soit dans le spatial, mais même aussi dans le domaine public, hein, puisque ils ont inventé les couvertures de survie, ils ont inventé les panneaux solaires. Des choses qu'on utilise nous, et puis dans le spatial, c'est des choses, quand Thomas Pesquet il va dans l'ISS, l'arrimage à la station spatiale, enfin les technologies d'arrimage, ça a été inventé pour les missions Apollo, et ensuite utilisé dans plein d'autres missions.
Et ils ont posé les bases de tout, ce qui se fait maintenant, et c'était le point de départ, et de là, ils ont fait que améliorer les choses.
Oui.
Là, c'est évident ils vont retourner sur la Lune, mais l'expérience, même si c'était il y a 50 ans, Elle est acquise et elle est
utilisée tous les jours. C'est devenu le béaba des agences spatiales, ce qu'ils ont inventé à l'époque. Je continue avec un point sur les risques, puisque c'est aussi pour ça qu'on n'est pas retourné sur la Lune, c'est que c'était risqué. À l'époque, ils n'ont pas trop parlé de ça parce que ça ne faisait pas bien. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'échelle mondiale, il y a eu 65 missions sur la Lune et qu'il n'y en a eu que 24 qui ont réussi. Les autres se sont crashés ou voilà. Et on connaît quand même la fameuse mission Apollo 13, qui est très connue pour son échec, il y a même eu un film dessus. Mais sinon, quasiment toutes les autres missions qui sont allées, des missions Apollo, ont eu des problèmes qui auraient pu facilement se solder par la mort de l'équipage. Il y a eu des...
Il y a eu Apollo 1, trois personnes sont décédées, trois astronautes. Ils ne sont pas décollés, mais...
Oui, alors c'est à partir d'Apollo 8 qu'ils sont vraiment allés sur la Lune, je crois, enfin vers la Lune.
Ouais.
Voilà. Et à partir d'Apollo 8, en fait, ils ont tous évité des risques assez considérables. Il y en a une, est-ce que je l'ai noté? Je vérifie mes notes. Non, mais je sais qu'il y en a une, je crois que c'est la 15. Ils ont fait leur mission, tout s'est bien passé. Ils sont rentrés. Deux jours après, il y a eu une éruption solaire terrible qui les aurait grillés sur place dans leur voyage vers la Lune. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire comme ça, une éruption solaire. Mmh. Bon, il se trouve que c'était deux jours après, tant mieux. Ça aurait été deux jours avant, ils grillaient sur place. Quoi. Voilà. Donc voilà, il y avait vraiment des risques qu'ils étaient prêts à prendre à l'époque et qu'en même temps, ils mesuraient et qu'ils se sont dit bon, on a joué avec le feu pour six missions. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue à jouer
avec les risques jusqu'à Apollo 20.
Et oui, c'est ça. Statistiquement, ils se sont dit non, là, on risque de perdre quelqu'un, enfin de perdre un équipage. Et c'est une des principales raisons, en fait, qui a vu le programme Apollo être écourté. Parce que voilà, en termes de probabilité, une catastrophe pouvait qu'arriver. Et en plus, on aurait sapé toutes les réussites accomplies, finalement. C'est ça qu'on aurait gardé dans l'opinion publique. Genre, ah oui, on gaspille 150 milliards de dollars pour aller tuer des mecs loin. Ah bon, super. Ouais. Alors que là, on garde l'image de ah, ils sont trop forts, ils sont posés sur la Lune. C'est quand même mieux. Voilà, un petit peu. Pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune ? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, on parle des fois aussi de la technologie qui a avancé depuis. On dit oui, mais quand même, à l'époque, les ordinateurs, il faut voir ce que c'était, alors qu'aujourd'hui, on a des IA, tout ça. En fait, c'est des choses qui sont pas si utiles pour aller sur la Lune. C'est pas le traitement de données le problème, en fait. C'est surtout les infrastructures, les ressources, les lignes de production qu'il faut mettre en œuvre et tout ça. Si on regarde... l'aviation, je connais personne qui me dit aujourd'hui on fait plus d'avions, enfin les avions n'existent pas, peu importe. Les avions, les premiers avions des années 40, les premiers avions commerciaux et les avions d'aujourd'hui, ils n'ont pas tant évolué. Ils sont un peu mieux pour se repérer, voilà, mais construire un avion, c'est quand même ouais. Faire des millions de boulons, faire de la tôle, faire des moteurs, faire des choses qui...
L'aviation, elle a quand même bien évolué enfin, sur les altitudes de vol, les vitesses, les machins, enfin, la capacité de portage. Oui, capacité en 50 ans, il y a eu quand même. Mais c'est vrai que moi, il y avait déjà le Concorde, par exemple, dans les années 80.
Oui, voilà.
C'était l'avion supersonique qui a déjà.
Dans les années 50, on pouvait déjà faire des Paris-New York, on peut encore le faire. Et c'est pas parce qu'il y a une IA que ça coûte moins cher, que c'est plus facile. Non,
c'est plus effectivement sur le vaisseau lui-même, en fait. Et c'est puis ça. Toujours ces problèmes de masse, de carburant qu'il faut arracher à la gravitation terrestre et envoyer là-haut. Tout ça, en évitant de faire sauter les cosmonautes.
Bah ouais.
Et ça, en fait, qu'il y ait une IA ou pas, ça ne change pas grand-chose. En réalité, on a même été capable d'envoyer les sondes, on en a déjà parlé, mais les sondes Voyager, par exemple, ils avaient 32K de mémoire embarquée.
Oui.
32K, hein, on ne parle pas de gigas, de machin et tout, 32 kilo-octets. Et avec ça, ils ont réussi en fait, à faire une mission qui vole encore, qui a réussi à traverser tout le système solaire et à survoler toutes les planètes du système solaire. Donc en fait, voilà, y a pas besoin d'avoir une IA pour faire du spatial intéressant. Quoi.
Non. La technologie sur les moteurs n'a pas tant évolué depuis ces années-là.
Il n'y a pas eu de révolution. Voilà. On n'a toujours pas inventé le moteur qui permet d'aller plus vite que la lumière. Et on n'a toujours pas inventé les choses qui permettraient de réellement changer la donne.
Exactement.
Donc, voilà.
Ça se perfectionne, mais le fond est...
Voilà, mais ça peaufine, mais le gros du problème, c'est quand même mécanique, quoi. C'est pas informatique.
Non.
Et en mécanique, on n'a pas eu de grande révolution. Si ce n'est les imprimantes 3D.
Ouais, c'est sûr. Mais de la même façon, si on regarde l'état de la connaissance, des connaissances en physique, qui est quand même la science dont toute l'ingénierie découle, enfin beaucoup. Alors il y a peut-être un peu la biologie maintenant, enfin ça reste quand même la physique et la physique chimie qui donne un peu le ton de tout ça. Et en termes de théorie, et ben depuis la relativité générale et depuis la mécanique quantique, en réalité il y a rien de complètement neuf.
Il y a
rien d'équivalent aux révolutions qu'ont constitué ces deux théories. Enfin ces deux théories qui en sont un peu plus que des théories puisqu'elles ont été validées par l'expérience. Il n'y a rien depuis, et ça, c'est des trucs qui ont 120 ans maintenant. Donc, on est aussi dans cette position-là des sciences où, évidemment, ça progresse, l'ingénierie progresse, mais il n'y a pas d'avancée majeure d'un point de vue théorique qui permettrait une avancée majeure d'un point de vue technique aussi.
Ouais.
Après, est-ce que si les États-Unis mettaient 5% de leur PIB actuel dans un voyage lunaire, ça développerait plein de nouvelles choses ?
Ouais, c'est possible.
À suivre.
Et bien justement, la suite, je vais finir avec ça, c'est le retour sur la Lune, puisque maintenant, l'objectif est dans toutes les bouches, la sorte de nouvelle course à l'espace, et bien c'est Mars. Et alors ça demande des compétences qu'on peut développer sur la Lune, de survie sur une autre planète, des choses comme ça, puisque là, l'idée du programme Artemis, mais Pierrick en a déjà parlé, ou peut-être que j'en reparlerai plus en détail aussi. Mais en tout cas, cette fois, ce n'est pas juste d'y passer quelques dizaines d'heures, c'est d'y passer des semaines sur la Lune, et là, du coup, de développer des techniques qu'on n'a pas encore aujourd'hui pour aller sur Mars. Et donc, c'est plus simple d'aller s'entraîner sur la Lune.
Je suis tombé sur un article qui parlait de permaculture lunaire. Ça m'a fait triper. Faire pousser des légumes en permaculture sur la Lune.
Bah oui.
Ok.
et puis il y a cette station aussi, puisque l'ISS arrive en fin de carrière et que la prochaine station internationale, a priori, devrait être lunaire et plus terrestre, la fameuse Space Gateway. Et puis la NASA n'est pas seule, justement, tu parlais de budget, est-ce que s'ils remettaient plein de sous, est-ce que ça serait mieux? Alors c'est pas prévu qu'ils remettent énormément plus de sous, mais c'est maintenant partagé avec l'ESA, l'agence européenne, le CSA je crois que ça s'appelle, les Canadiens, et la JAXA, les Japonais. Il y a une découverte majeure aussi sur la Lune, qui est quand même pas rien, c'est qu'on a découvert de la glace d'eau, ce qui permet de ne pas avoir à l'amener depuis la Terre, parce que c'était quand même un des gros problèmes de s'établir sur la Lune. C'était s'il faut amener de l'eau, c'est mort, quoi. Les coûts sont vraiment prohibitifs d'envoyer de l'eau jusqu'à là-bas. Mais si on a comment on sait qu'il y a de la glace d'eau sur la Lune, et ben à partir de ça, on peut boire déjà, on a de l'eau, et puis on peut aussi le séparer pour avoir de l'hydrogène qui peut servir de carburant et d'énergie, et de l'oxygène pour respirer. Tout ça, c'est quand même pas rien.
C'est des grosses discussions, en fait, parce que la question, c'est combien il y a d'eau.
Oui.
Et il n'y en aurait pas non plus tant que ça. Donc, par exemple,
il y a la facilité d'extraction.
Voilà, donc il faut aussi l'extraire et tout. Donc, même si ça, apparemment, c'est envisageable, l'enjeu, effectivement, de l'utiliser pour boire, pour ça, d'accord. Mais l'utiliser, par exemple, pour faire de l'hydrogène et de l'oxygène, ou de l'hydrogène, en fait, pour l'utiliser comme carburant, pour pouvoir ensuite, ça, a priori, c'est pas envisageable. A priori, il n'y a pas assez d'eau pour permettre de faire ça, quoi.
Oui. Bon, à voir. Et puis, j'avais noté ce qu'on vient de parler aussi, les progrès en informatique, les compétences qu'on aurait perdues, mais non. Et d'ailleurs, la fameuse fusée SLS, est en développement depuis 10 ans, ce qui était à peu près la durée de vie du début, en tout cas, des missions Apollo, du programme Apollo. Tout le développement, c'était ça, une dizaine d'années. Et donc, voilà, ils ont mis à peu près autant de temps en se servant quand même beaucoup, justement, de ces acquis, puisque la fusée SLS, si on la met à côté d'une fusée Saturn V, il n'y a pas une énorme différence, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous n'avez rien à ajouter, je pense qu'on peut passer à la pause musicale.
Eh bien, merci Axel pour cette rubrique spéciale. On va passer à la pause musicale. Cette semaine, c'est un morceau de Fleetwood Mac qui s'appelle Dreams. Et ce sera une dédicace à Emily qui parfois nous écoute. Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors, on va poursuivre cet épisode avec la chronique spatiale de Péric, toujours un peu dans la thématique de la Lune. Et cette fois, tu vas nous parler du programme lunaire soviétique des années 60.
Tout à fait. Je vais parler du programme lunaire habité soviétique des années 60. Donc, on est en parallèle des Américains dont on parlait juste avant, et du programme Apollo, qui a été décidé en 62 par Kennedy, comme on l'a dit juste avant. Et pour ce faire, je vais me concentrer sur un personnage soviétique qui s'appelle Sergueï Korolev. Ce brave homme est né en 1906 et il fait des études d'ingénieur, il est assez doué. Et il entreprend de faire des moteurs fusées d'avions. Donc avant les années 30, il entreprend cela, il est très attiré par les étoiles et les fusées et tout ça. Et donc il commence un peu à s'intéresser à tout ça. Dans les années 30, donc Staline est au pouvoir en URSS, et il commence à psychoter Staline et il devient un peu fou et fait des purges.
C'est pas le genre de la maison, excuse-moi, mais...
ouais. C'est les purges staliniennes des années 30 et Staline pense que tout le monde est contre lui, et donc il envoie ce magnifique ingénieur au goulag sur dénonciation. Alors, juste, je vais m'arrêter deux secondes là-dessus, parce que à l'époque, tout le monde dénonçait tout le monde. Tout le monde avait peur. Et pour se débarrasser des interrogatoires, qui sont très violents, et d'échapper au goulag, on dénonçait son voisin. C'était une manière de se protéger, entre guillemets, parce qu'à la fin, on allait tous au goulag, je crois. Et donc, dans le bureau dans lequel il travaille, il y a un certain Glouchko qui le dénonce. Et donc, pour des faits de... Je ne sais même plus, mais c'est d'espionnage, enfin, j'en sais rien. En tout cas, à partir des années 30, ce Sergueï Korolev va passer 15 ans au goulag, dont 5 ans à Kolyma. Kolyma, c'est un goulag des steppes de Sibérie qui a été terrible, c'est connu. Et il va en sortir bien ravagé de cet endroit. Et la Seconde Guerre arrive et les Soviétiques gagnent sur l'Allemagne nazie. Donc en 1945, on se rend compte que les Allemands, par l'intermédiaire de von Braun, ont développé des fusées qui ont l'air très intéressantes. Et du coup, on rappelle Korolev, au bout de 15 ans de goulag quand même, je le rappelle. On le rappelle pour lui dire, toi tu étais ingénieur fusée, viens voir, on a trouvé plein de choses en Allemagne nazie. Viens voir et viens étudier tout ça. Et donc, il le fait, passionné par ce qu'il faisait, je pense. Et donc, il récupère des prototypes de fusées allemandes V1, V2. Il récupère peu de scientifiques, les soviétiques, contrairement aux Américains qui récupèrent Von Braun, le chef de l'ingénierie nazie des fusées, qui va d'ailleurs conduire la majeure partie du programme Apollo par la suite aux États-Unis.
Historiquement, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont été très 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 rapides pour rafler tous les scientifiques intéressants. Ouais. Quoi. Ça, ouais. C'est eux qui sont servis les premiers. Ils ont ensuite la Russie et après la France s'est dit tiens, on va peut-être trouver des gens. Donc ils ont quand même ramassé 2-3 anciens nazis pour leur laboratoire. Quand même aussi, hein. La France l'a fait. Hein.
Oui, oui.
C'est pas non plus. Mais les Américains ont vraiment se sont taillés la part du lion dans tout ça, ouais.
Et donc, ce Sergueï Korolev va étudier les V1 et les V2 et va développer des fusées, des missiles intercontinentales. À la base, c'était ça, les premières fusées, c'était des missiles intercontinentales pour aller taper les méchants d'en face. Et donc, il va développer les R1, R2, jusqu'à R7, qui est littéralement l'ancêtre du Soyouz. C'est vraiment sa base, c'est ça. Et donc, en 61, comme on l'a dit, 62, les USA décident de faire un programme lunaire habité. Parce que en face, les Russes, avec Korolev, se débrouillent très bien. Notamment le premier satellite, Sputnik 1, qui est envoyé donc par une R7, l'ancêtre du Soyouz. Puis Gagarine en 61, pareil, qui est envoyé avec un Soyouz. Puis toutes les sondes Luna, qui sont quand même les premières sondes à avoir fait un survol de la Lune ou s'être posée. Donc ils sont quand même en avance au début des années 60. Les Soviétiques, ils ont une petite avance. Il y a aussi la première sortie extravéhiculaire, qui est en 65. La première femme, enfin voilà, ils ont...
Mais en fait, ils avaient, on t'en a déjà parlé dans le passé, quand tu as parlé des Russes et tout, ils avaient de l'avance au départ.
Ouais.
En fait, tous les premiers succès ont été soviétiques. Ouais. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'il y a eu là une pression de fou sur le programme Apollo.
Oui.
C'était pour dire, en fait, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on est en train de se faire latter.
Ils font tout
mieux que nous et plus vite. Quoi. Ouais. Donc, il faut absolument que ça, au moins, ce soit nous qui gagnons. Enfin, il y avait aussi cette pression-là parce que les Russes étaient bons.
Et bah ouais, notamment grâce à ce Sergueï Korolev qui porte un peu tout le programme. Hein, parce que dans les années, la NASA s'était créée pour l'occasion, enfin, début des années 60, je dirais. Et c'est toute une administration énorme qui est mise en place pour gérer le programme spatial. Les Russes, ils ont des bureaux éparpillés dans l'armée, dans l'administration, et aussi un peu dans le privé, enfin... Et il n'y a pas une agence d'État qui génère tout ça. Et c'est un peu Korolev qui fait le lien entre tout le monde. Et donc, ils prennent un peu de retard, les Soviétiques, à ce moment-là, parce qu'en 64, ils décident de lancer le programme lunaire habité. Alors que les Américains, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont dessus. Donc déjà, là, ils prennent un peu de retard. Et à ce moment-là, ils décident de développer la fusée N1, qui est un monstre. Une fusée monstrueuse, 105 mètres de haut, 5 étages et un diamètre de 17 mètres.
Effectivement, c'est monstrueux.
C'est plus gros que la... C'est aussi haut que la Saturn V. La Saturn V, je crois que c'était 12 mètres de diamètre. Donc elle est plus large, beaucoup plus massive. Elle fait 2735 tonnes. Elle a 30 moteurs. Donc c'est...
Ils ont réussi à la faire décoller, ça.
Ouais, alors elle a 5 étages aussi. Donc ils l'ont fait décoller 4 fois. Il y a eu 4 essais de cette fusée N1, dont le premier s'est pas très bien passé. La fusée décolle, elle monte, quelques moteurs s'éteignent. Bon, c'est pas grave, normalement il y a un ordinateur qui compense un peu la perte d'un réacteur, très simplement. Si un réacteur s'éteint à droite, elle augmente la puissance d'un réacteur à gauche et on équilibre un peu le truc comme ça. Sauf que les Russes, les Soviétiques à l'époque, ils sont pas très bons en informatique et ce logiciel déconne et la poussée se fait mal et bref, la fusée se détruit en l'air. Ok, allez, on fait un deuxième essai. Et là, le deuxième essai, c'est un échec total. C'est vrai que la fusée explose genre à 100 mètres du sol. Et là, mais c'est une explosion énorme.
Ah bah ouais.
Ça a été la plus grosse explosion d'une bombe, c'est une mini-bombe, à part la bombe atomique. Donc, le pas de tir est entièrement détruit. Il n'y a pas de mort, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais voilà, c'est un gros échec pour eux.
Après, quand les Russes disent qu'il n'y a pas de mort,
il faut
chercher un peu plus.
En tout cas, voilà, c'est un gros échec. Et là, les Américains, du coup, comme à l'époque, tout est secret, ils ne savent pas ce qu'ils font, les uns et les autres, en partie, quoi. Du coup, là, ils savent qu'ils sont en train de développer une fusée lunaire et je pense que ça leur met un coup de pression de plus, sachant qu'ils ont des bons ingénieurs. Voilà. Donc, le pas de tir entièrement détruit. Donc, il va leur falloir 2 ans pour le reconstruire, tout remettre en place. Donc, tout un bordel. Et en 66, Sergueï Korolev meurt. Des suites d'une opération somme toute bénigne, normalement, je ne sais plus, mais il n'aurait pas dû mourir de ça. Mais en tout cas, ça s'infecte. Des suites de ses séjours au goulag.
C'est un chirurgien américain, oui. Un espion.
peut-être. En tout cas, il meurt à 66 ans, je crois. Non, en 66. Je ne sais plus quel âge il avait. Enfin, il avait la soixantaine. Et il meurt. Et là, ça met quand même un gros coup de frein au programme.
Ben.
C'était quand même le mec qui envoyait, qui faisait des journées de 18 heures, qui connaissait un peu tout le monde et qui arrivait à faire que ça fonctionne.
Ah oui, donc, on peut se poser la question, si Von Braun avait disparu en 66, est-ce que Armstrong se posait sur la Lune en 69
A priori pas, je dirais a priori pas.
Ah ouais.
Parce que quand même, il a joué un rôle. Il a fait des émissions sur Von Braun, il a eu un rôle tellement majeur dans tout ça que je suis pas sûr.
Son pendant russe, enfin soviétique.
Ouais.
Je pense que ça m'étonne pas.
Et puis là, le budget, petite parenthèse, mais le budget soviétique, je pense que c'était un quart du budget américain, quoi. On était sur d'autres problématiques. Donc, ils font un troisième et un quatrième essai de la fusée N1 qui finalement ne marche pas. Pareil, l'ordinateur qui doit gérer les 30 moteurs déconne. La mort de Korolev mine un peu tout le monde. C'est Mishin, son bras droit, qui reprend ça, mais c'est pas le même gars, donc ça marche moins bien. En tout cas, voilà, au bout de 4 essais, Mishin arrête. C'est Glushko, donc le mec qui a dénoncé au début Korolev, qui reprend la direction de tout ça et qui finalement décide d'arrêter ça et de se concentrer sur les stations spatiales.
Ouais.
C'est à cette époque qu'ils se disent, bon, l'argent, on va essayer de le mettre dans les stations pour faire autre chose. Ce qui n'est pas... Enfin, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'ils avaient prévu, les Soviétiques, pour aller sur la Lune?
Juste par rapport aux stations spatiales,
oui.
C'est quand même les Russes qui ont eu la première station spatiale de l'histoire, avec Mir.
Oui, même avant, il y en a eu...
il y en a peut-être une petite...
Les Salyut, en tout cas,
c'est eux qui, les premiers, ont eu des stations spatiales, avant les Américains.
Oui, oui. Tout à fait.
Ils ont continué à être premiers, quand même, sur d'autres points.
Ouais.
C'est eux qui ont la plus grosse expérience. Enfin, les Américains sont vraiment... en tout cas, ils ont une grosse expérience de vol, de temps passé dans l'espace, quoi.
Ça, c'est sûr. Ouais. Et je voulais juste mentionner, par rapport à l'époque actuelle, la Chine, qui possède sa propre station spatiale actuellement, en orbite.
Habitée en permanence.
Et que pour elle. Que pour elle. C'est juste à la Chine.
Il y a des Coréens du Nord qui y vont aussi.
Ah oui.
Non, ça, c'est vrai.
D'accord. C'est vrai, la fameuse gigantesque équipe de cosmonautes de Corée du Nord. Ouais. En tout cas, la Chine, voilà, juste pour mentionner ça, voilà, ils sont vraiment très présents et ils ont leur station. C'est pas rien d'avoir une station spatiale, d'être capable de la créer, de la maintenir, d'utiliser. Enfin, c'est des ressources qui sont mobilisées quand même.
Ah oui, c'est clair.
Donc, comment ils voulaient faire pour aller sur la Lune, les Soviétiques, à l'époque? Donc déjà, ils partaient à 2 cosmonautes, au lieu de 3 pour les missions Apollo. Après, ils envoyaient 2 fusées, Il y en a une qui envoyait le vaisseau de transfert, celui qui partait de la Terre à la Lune, et une autre fusée avec l'atterrisseur lunaire. Et ils étaient obligés, en l'air, de faire une rencontre spatiale avec ces deux engins pour les coller ensemble. Pour
aller près de la Lune ou de la Terre ?
Non, autour de en orbite. De
l'orbite
la Terre.
Terrestre, ok. Ouais. Ouais.
Et pour ce faire, au lieu de faire un sas entre les deux vaisseaux, ils ont fait juste un système pour arrimer les deux vaisseaux, et puis les cosmonautes devaient sortir, faire une sortie extravéhiculaire,
ah oui,
pour aller passer oui. dans l'autre vaisseau.
Oui, ok, il n'y avait pas de porte entre les deux, quoi. C'était
non.
juste un...
Ouais.
Technique.
Ils s'accrochaient entre
ouais.
eux.
Et...
et tu... ah oui.
Technique.
Ouais. Après, donc, le train lunaire avec les deux vaisseaux, donc l'atterrisseur et le vaisseau qui permet de faire le transfert entre la Terre et la Lune, partait en direction de la Lune. Il faisait... Un vaisseau se mettait en orbite lunaire. Pareil, là, il fallait sortir avec son petit scaphandre dans l'espace, aller dans l'autre atterrisseur, dans la lunisseur, on va dire. Et de là, il y en a un. Je ne sais pas si tu imagines.
Ouais.
Il y en a un qui reste en orbite.
Et un qui descend tout
et
seul.
Et un qui descend tout seul sur la Lune.
Ouais.
Psychologiquement, là, t'es balèze, quoi.
Oui, là où les Américains, en fait, ils allaient à trois. Il y en avait deux qui descendaient sur la Lune. Il y en avait quand même un qui restait tout seul.
Il y en a un qui restait tout seul
à
et qui devait
flipper.
Faire le
tour derrière la face cachée, etc.
Oui, parce que quand tu orbites autour de la Lune, quand tu es dans la face cachée, il n'y a plus aucune communication possible.
Je ne sais plus, il y a 50 minutes, enfin je ne sais plus, 10 minutes, je ne sais plus combien de temps ça
prend. Demi-heure,
je
crois, de souvenir. Mais
quelques dizaines de minutes, voilà, où il n'y a plus de communication du tout. Donc là, tu es tout seul, quoi. Oui, oui.
et le retour se faisait un peu comme les fusées Apollo, enfin comme les missions lunaires Apollo, c'est-à-dire que la lunisseur atterrissait et seulement une partie remontait, s'accrochait au vaisseau de transfert et repartait sur la Terre. Mmh. Voilà, on était un peu sur les mêmes types de conception. J'ai l'impression que c'était la conception qui utilisait le moins de carburant. Ils avaient besoin d'emmener le... qui permettait d'emmener le moins de tonnes dans l'espace.
Bah et puis d'en poser le moins aussi.
Et
parce que si tu fais tout en un seul vaisseau qui part de la Terre, c'est-à-dire qu'il est très chargé en partant, et dans tous les cas, ils seront chargés en partant, mais que par contre, après, il se pose en étant chargé, et il repart, et l'appareil, j'imagine qu'une fois qu'il se retrouve, il laisse en orbite autour de la Lune l'atterrisseur, et il rentre qu'avec le vaisseau de transfert, donc s'il faut aussi moins de carburant, il y a moins de masse à transporter.
Dans l'ensemble, c'est
ce qui semble le plus économique. Ouais.
C'est assez compliqué de toute façon de faire un seul vaisseau qui fasse tout. La fois t'amène jusqu'à l'endroit et à la fois te permettre d'atterrir. Et la plupart, la quasi-totalité d'ailleurs des cas, il y a un atterrisseur qui est séparé du vaisseau de transport.
Oui, souvent. Oui,
parce qu'en fait, faire les deux, ça marche pas vraiment. En fait. C'est deux fonctions complètement différentes. En fait.
Il y a peut-être dans le programme Artemis, là, ils veulent... Je crois qu'il y a un vaisseau de SpaceX qui fait le transfert Gateway.
Oui, Lune. Mais là, c'est à partir du moment où il y a le Gateway, ça devient différent.
Oui,
puisque, il suffit d'aller au Gateway et là, tu as de toute façon la possibilité de descendre. Donc, tu n'as même plus besoin de te poser en fait, le problème de la descente, puisque la descente sera assurée sur place.
C'est
aussi ça tout l'intérêt du truc, c'est qu'il n'y a que à y aller quoi, quelque part il n'y a qu'à y aller, s'arrimer, mais une fois sur place on aura tout ce qu'il nous faut, une fois qu'on aura tout amené, parce qu'on n'y est pas. Pour l'instant c'est des plans, je crois qu'ils ont commencé à assembler des trucs dans l'espace pour préparer un peu le gateway, mais je ne suis même pas sûr, enfin, disons, c'est le début quoi. Mais il me semble par contre qu'au niveau des plans de tout ça, ils sont quand même très très avancés. C'est pas juste un truc dans les cartons.
Ah non,
ça va se faire là dans 10 ans. Quoi. C'est pas de la science-fiction.
Non. Enfin, après, ils peuvent arrêter les budgets. Et bon.
Ouais, en cas de Troisième Guerre mondiale, effectivement, on verra si c'est toujours une priorité.
Et si je continue mon histoire alors. Voilà, donc bon, ils l'ont jamais fait, hein, comme on le sait tous. Et du coup, ça me fait penser à une série qui s'appelle For All Mankind, donc pour toute l'humanité en français, qui nous parle de « Et si les Russes étaient arrivés en premier sur la Lune ?» et que la conquête spatiale aurait gardé un dynamisme, une espèce de course entre les deux, qui est assez sympa. et qui montre ce vaisseau du coup tel qu'il était, tel qu'il avait conçu. Il est toujours, il y en a. Hein, si vous allez à la Cité des Étoiles à Moscou, vous pourrez en voir.
Ah oui. Ok.
Et alors voilà, donc ils n'ont jamais fait ça. Mais si je reviens à ce Michin, qui était quand même un ingénieur qui était axé sur les moteurs, lui, son truc c'était les moteurs fusées. Il a développé des moteurs hyper performants. Que quand Glushko a repris, on va appeler ça Roscosmos, même si à l'époque c'était pas ça, donc l'agence spatiale soviétique, Glushko a. Comme c'était un peu ses concurrents, il a un peu viré tout le monde, dont Michin. Et Michin, il avait fait ses moteurs qui étaient très fiers et qui étaient très performants. Et ses moteurs, il les a cachés. Ça, c'est une histoire incroyable. Il a caché au moins une trentaine de moteurs. Il les a enlevés des stocks pour les cacher dans un entrepôt. Ils sont restés là une dizaine d'années, ou 15 ans, je ne sais plus. Jusqu'à ce que l'URSS chute et qu'elle s'ouvre un peu au monde extérieur. Et là, il a contacté la NASA et il y a un entrepreneur américain qui est venu voir ses moteurs qui dormaient dans ses entrepôts. Et il les a vendus à cet américain. Et effectivement, ces moteurs étaient extrêmement performants. Ils étaient super bien conçus. Il les a vendus aux USA en 95. Et ils ont équipé toutes les fusées Atlas de l'époque.
Ah ouais.
Ça, c'est quand même fou, quoi. Des fusées américaines équipées de moteurs soviétiques.
Moteurs de fin fond d'un hangar.
D'il y a 30 ans, développés à l'époque. Et voilà, pour finir au final, tout s'est un peu mélangé dans ces histoires de course à la Lune. Même maintenant, la station spatiale, elle est internationale. C'est peut-être le dernier endroit où les Américains et les Russes travaillent ensemble.
Ouais. Et les Européens le aussi. Reste, ouais. Mais le Gateway aussi, de toute façon, ils travailleront ensemble. Enfin, alors, sauf s'il y a vraiment une évolution, comme je disais, là, c'est vrai que
non, si d'un coup on va vers la... Ils ne sont pas dans le programme du Gateway, les
Russes. Non. Ils n'y sont pas.
Non, non.
Je crois que les Russes, ils développent leur programme avec la Chine. Ensemble.
Ah ouais, ça me paraît plus probable. Non, mais le Gateway, ils sont pas déjà liés à ça, s'ils voulaient s'en retirer.
Ça veut dire que le Gateway, il n'y aura que les Américains et les Européens. Et les Japonais aussi ou pas? Même pas sûr.
Oui. Japonais et Canadiens. Ouais.
Voilà, bon. Donc on va se retrouver dans l'espace avec aussi cette division. Et puis de l'autre côté, la Chine et la Russie.
Ouais.
On verra bien.
Pour l'instant, oui, c'est ça.
En tout cas, d'un point de vue plus global par rapport au... à l'avancée de l'humanité dans son exploration de l'espace proche, et ben il y a quand même voilà ce projet de Gateway, ce retour sur la Lune avec le programme Artemis américain, de toute façon aussi un programme chinois hein, par rapport à la Lune. J'ai pas les détails, je sais pas même si on l'a, mais ils ont ils ont fait le retour d'échantillons sur la face cachée, ils font plein de choses et je pense qu'eux aussi, à un moment donné, si tout le monde commence à se pointer sur la Lune, ils vont aller mêler un petit peu leur grain de sel.
Je crois que les Chinois, c'est un Chinois sur la Lune en 2030.
Voilà.
C'est leur objectif.
Et, ouais. Et si on regarde aussi, en fait, il va y avoir clairement une espèce de course à l'occupation du pôle sud lunaire. J'avais fait une émission là-dessus, mais il y a beaucoup. Enfin, la plupart des missions qui visent maintenant la Lune visent le pôle sud lunaire. Pour différentes raisons, mais principalement parce que déjà il y a dans le régolithe, c'est un endroit où il y a pas mal d'eau liquide d'eau glacée, sous forme de paillettes de glace à récupérer, et aussi parce qu'en fait sur le pôle sud, le pôle sud est entouré d'une sorte de crête de cratères qui font qu'en réalité, en étant sur les crêtes, on peut avoir de la lumière en permanence. 24 heures sur 24 en fait, parce que même quand on passe sur la partie nuit, en réalité en étant suffisant auprès du pôle et en étant surélevé, eh ben on arrive quand même à capter la lumière. Ça c'est un effet
toute l'année quoi,
la journée lunaire. Ouais, mais parce qu'en fait, ça, c'est un effet qu'on voit quand on observe la Lune au télescope, aux jumelles aussi. Parfois, vous observez la zone du terminateur, c'est-à-dire la zone d'ombre, en fait, là où vous voyez bien les cratères parce que la lumière arrive en incidence rasante. Et très souvent, vous voyez des points lumineux qui, on a l'impression, sont suspendus dans le vide.
Dans le noir. Ouais.
Et ça, en fait, c'est des trucs qui sont côté sombre, mais à la limite, en fait, de la ligne de jour, mais qui sont plus hauts. Éclairé, et du coup, qui, quand même, malgré la courbure et de la planète, enfin, ou du satellite, réussissent par leur sommet à capter quand même la lumière et du coup à devenir visible. Donc c'est pour ça qu'on peut voir la pointe, par exemple, de certaines montagnes éclairées, alors qu'on a l'impression qu'on est dans le vide. Et c'est la même chose autour du pôle sud-lunaire. Du coup, ça voudrait dire qu'on peut avoir tout le temps de l'énergie. Il suffit de ramener des panneaux solaires et du coup, on est tranquille, en fait. Et en même temps, c'est une zone où les températures varient assez peu. Puisque sinon, si on va vers le centre, en fait, il y a des vraies différences entre la partie éclairée et la partie à l'ombre. Vu qu'il n'y a pas d'atmosphère pour un peu brasser la température à la surface de la Lune, il y a de grosses différences de température. Et ça caille, en fait, à l'ombre, on descend assez froid, quoi.
Ah bah oui.
Voilà pour ces... Merci, Pierrick, pour ces compléments là sur la Lune. Et Axel aussi, donc la Lune, notre astre... du ciel poétique qui nous accompagne. On espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. On vous souhaite de belles observations à travers les nuages et puis à la semaine prochaine.
Ouais. Et une bonne journée sur Radio Diwa.
Bon dimanche.
Salut.